Parfait. Alors, on va commencer le cours. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors voilà, on commence un nouveau module, au module 4, la maîtrise du mental. Régent, tu vois le texte?
Non.
Non?
Même si j'avais l'âge opportun pour l'avoir.
Ah, OK. Bon, mais c'est plate, ça. Bon, OK. Bon, on va commencer. Virginie, voudrais-tu lire, s'il vous plaît?
Oui, avec Chinalou. La maîtrise du mental. La fébrilité ou inconstance du mental, Mano Vega, peut être dominée lorsque nous fixons notre esprit sur les pieds parés au lotus de Krishna. Le Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.33, enseigne à cet
31.
effet, pardon, 22.31, enseigne à cet effet, Krishna Surya Sama Maya Aya Adankara, Yahan Krishna Tana, Tahan Nahi Mayara Adhikara. Krishna est pareil au soleil et Maya aux ténèbres. Là où brille le soleil, il ne saurait y avoir d'obscurité. De même, dès que l'on adopte la conscience de Krishna, les ténèbres de l'illusion, l'influence de l'énergie externe se dissipe aussitôt. La technique de yoga qui vise à nier toute pensée matérielle ne s'avère ici d'aucune aide. Le vide créé dans le mental ne peut être qu'artificiel et ne tardera pas à se combler. Cependant, si l'on absorbe toujours ses pensées en Krishna, en méditant sur le moyen de mieux le servir, tout naturellement, le mental sera maîtrisé.
Continue, s'il vous plaît.
4.1. La fébrilité ou inconstance du mental, Mano Vega, peut être dominée lorsque nous fixons notre esprit sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Le Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.31, enseigne à cet effet, Krishna Surya Sama Maya Aya Andakara, Yahan Krishna Tahan Nahi Mayara Adhikara. Krishna est pareil au soleil et Maya aux ténèbres. Là où brille le soleil, il ne saurait y avoir d'obscurité. De même, dès que l'on adopte la conscience de Krishna, les ténèbres de l'illusion, l'influence de l'énergie externe, se dissipent aussitôt. Voici la teneur est portée du verset ci-haut mentionné dans le Chaitanya Charitamrita,
Charitamrita.
Charitamrita, Madhya 22.31. Teneur est portée. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 2.9.34. Rite.
Saute le sanskrit.
D'accord. Là où se trouve la lumière, il ne peut y avoir de ténèbres. Lorsqu'un être vivant devient conscient de Krishna, il est immédiatement soulagé de toute convoitise matérielle. La concupiscence et la cupidité sont liées à tama, les ténèbres de l'ignorance, et raja, la passion. Lorsqu'un être devient conscient de Krishna, les gunas, les ténèbres et de la passion se dissipent immédiatement pour laisser place à la vertu, sattva guna. Une fois situé dans la vertu, il peut alors progresser spirituellement et comprendre les choses très clairement. Il n'est pas possible pour tous d'atteindre ce niveau. Celui qui est conscient de Krishna écoute continuellement ce qui a trait à Krishna, pense à lui, l'adore et le sert en tant que son dévot. S'il reste ainsi situé dans la conscience de Krishna, les ténèbres de Maya ne pourront certainement pas le recouvrir.
Il y a des
Voici
questions, des commentaires?
maintenant. C'est quand même assez difficile, surtout quand on est actif beaucoup. C'est que le mental est quand même difficile à maîtriser. Faut enfin, parce que moi, à titre personnel, je n'ai pas encore atteint le niveau où je suis consciente de Krishna en permanence.
Ouais.
Voilà, c'est, après, c'est vrai qu'avec la pratique, on se rapproche. Plus on récite de tours, plus on est dans l'écoute et les discussions autour des divertissements de Krishna et tout. Petit à petit, mais il y a toujours des moments où on est happé, par des choses. À nous de savoir, peut-être chaque fois essayer d'avoir le moins de temps possible entre les moments où on ne pense pas à Krishna, en fait.
Ouais, alors Om Gyanat Mirandasya Gnanjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai.
Jai.
Alors, Krishna répond à la question d'Arjuna dans la Bhagavad Gita, à savoir, Arjuna dit à Krishna que contrôler le mental, c'est comme essayer de contrôler le vent déchaîné.
Impossible.
C'est impossible. Mais Krishna répond que c'est possible par la pratique constante et le détachement. Alors, le détachement, ça veut dire quoi, ça, le détachement? Alors, qu'est-ce qui est synonyme de détachement?
Ben, c'est peut-être notre position par rapport aux actes qu'on accomplit. C'est-à-dire ne pas les accomplir pour nous, mais de les accomplir pour Krishna, ce qui permet de rester en contact et de ne pas en attendre les fruits.
Oui, ça c'est une façon de répondre. Mais la réponse toute simple, le détachement est synonyme de attachement à
Ah,
Krishna.
Krishna, ouais.
Alors, le détachement,
Une autre.
c'est l'attachement à Krishna.
Ouais.
Et l'attachement à Krishna, c'est le détachement de l'énergie matérielle, comme telle. Alors, le plus on est attaché à Krishna, le plus on va être détaché de l'énergie matérielle. Alors, un dévot, il doit constamment être vigilant et toujours s'arranger pour être engagé dans le service de Krishna. Et il peut y avoir des, disons, si on peut dire, des trous, mais le dévot, ce n'est pas ça qu'il souhaite. Le dévot souhaite être continuellement engagé au service de Krishna. Alors, il y a deux, disons, tous les dévots ne sont pas pareils. Et il y a des dévots qui semblent, comme Prabhupada explique dans le Srimad Bhagavatam, il y a des dévots qui semblent pareils comme les matérialistes. Mais Prabhupada explique, il y a une énorme différence quant à leur conscience. Alors, Prabhupada donne l'exemple. Il y a deux personnes qui travaillent à l'usine. Il y en a un qui travaille en pensant offrir le fruit de son travail à Krishna. Et l'autre qui n'a pas cette conscience-là, qui fait sa vie, sa routine, etc., mais qui ne pense pas à Krishna, que faut-il dire, d'offrir les fruits de son travail à Krishna. Alors, ça, c'est l'exemple que Prabhupada donne. Alors, dans la Bhagavad Gita, Arjuna est mis dans une situation où Krishna lui dit de toujours penser à lui, mais en même temps de faire son devoir. Et son devoir, c'est son devoir de kshatriya. Alors, il doit, disons, combattre. Et en même temps penser à Krishna. Alors, c'est la même chose pour n'importe qui. La vie matérielle, c'est comme un combat, la lutte pour l'existence, mais Et il peut se passer toutes sortes de choses. Pour certaines personnes, ça va bien. Et pour d'autres, ça va moins bien. Il y a toutes sortes de karma dans le monde matériel. Mais dans une façon ou d'une autre, quelqu'un doit penser à Krishna s'il veut être conscient de Krishna. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? OK. Alors, on va continuer. Là, c'est le même verset, mais cette fois-ci, la teneur portée qui est dans le Srimad Bhagavatam comme tel. Alors, Virginie, veux-tu lire, s'il vous plaît? Virginie?
J'avais coupé le son, excusez-moi, pour
Ouais.
ne pas faire de bruit. Ô Brahmana, ce qui semble revêtir quelque valeur, mais n'a aucun lien avec moi, sache-le, n'a rien de réel. Il ne s'agit que de mon énergie illusoire, un reflet dans l'obscurité. Teneur et porte. Il a déjà été montré au verset précédent que durant toutes les phases de la manifestation cosmique, son apparition, son maintien, sa croissance, les interactions de ces diverses énergies, son déclin et sa disparition, tout repose sur l'existence de Dieu, la personne suprême. De ce fait, lorsqu'il y a oubli de cette relation fondamentale de toute chose avec le Seigneur et que l'on considère comme réel ce qui n'a pas de lien avec lui, un tel concept est tenu pour issu de l'énergie illusoire du Seigneur. Parce que rien ne peut exister hors de lui, il faut admettre que l'énergie illusoire représente bel et bien une énergie du Seigneur. On désigne par yoga maya ou énergie d'union le juste concept par lequel on voit toute chose en relation avec le Seigneur. Quand sa Daivi Maya ou Mahamaya se caractérise, elle, par le fait de considérer une chose indépendamment de sa relation avec le Seigneur. Or, parce que rien ne peut exister indépendamment ou séparé de lui, ces deux mayas sont forcément liés à sa personne. Par suite, le concept erroné qui consiste à dissocier du Seigneur ce qui n'existe qu'en relation avec sa personne n'est pas faux, mais illusoire. On qualifie d'illusion le fait de prendre une chose pour une autre. Par exemple, confondre une corde et un serpent relève certes de l'illusion, mais la corde n'en est pas fausse pour autant. La personne sujette à l'illusion a bel et bien une corde devant elle, mais la vision qu'elle en a est illusoire. Par suite, le concept erroné qui fait voir la manifestation matérielle séparée de l'énergie du Seigneur relève de l'illusion. Mais cette manifestation matérielle n'est pas fausse. Ce concept illusoire correspond à un reflet de la réalité apparaissant dans les ténèbres de l'ignorance. Ainsi, qualifiera-t-on de Maya tout ce qui semble ne pas être produit par mon énergie? Croire que l'être distinct ou le Seigneur n'ont pas de forme, voilà également qui relève de l'illusion. Dans la Bhagavad Gita 2.12, le Seigneur d'entre les deux armées déclare qu'Arjuna et tous les combattants assemblés sur le champ de bataille, ainsi que lui-même, existaient dans le passé, qu'ils existent dans le présent et que dans le futur également, ils seront toujours des individus distincts les uns des autres, même lorsque sera anéanti le corps et qu'ils seront libérés de l'asservissement à l'existence matérielle. Le Seigneur et les êtres créés demeurent à jamais des personnes distinctes. Ils ne sauraient en aucun cas perdre cette nature personnelle. Bien plutôt, seul peut disparaître par la miséricorde du Seigneur l'influence de l'énergie illusoire, ce reflet de lumière dans l'obscurité. La lumière du soleil et celle de la lune qui éclairent le monde matériel ne sont pas sans autre origine qu'elles-mêmes. En effet, c'est le Brahmayoti qui constitue la véritable source de toute lumière. Celui-ci émane du corps spirituel et absolu du Seigneur, et se reflète ensuite sous diverses formes de lumière, comme celle du soleil, de la lune, du feu ou de l'électricité. Ainsi, Concevoir le soi séparé du soi suprême, du Seigneur, relève également de l'illusion. Et lorsque l'être distinct en vient à prétendre qu'il est lui-même le suprême, sachant qu'il s'agit alors de l'illusion ultime, du dernier piège tendu par cette même Maya, l'énergie externe du Seigneur. Les premiers aphorismes du Vedanta Sutra affirment, eux, que toute chose émane du suprême. Ainsi, comme l'expliquait le verset précédent, tous les êtres distincts sont nés de l'être suprême, de l'absolue personne divine. Brahma lui-même procède de l'énergie du Seigneur, et de même, toutes les autres créatures de ce monde, issues de Brahma, nul ne connaît d'existence séparée du Seigneur suprême. L'être distinct ne jouit pas d'une réelle indépendance, mais seulement d'un reflet de l'indépendance propre à l'être suprême. Comme l'établit ce verset, l'âme conditionnée qui prétend à l'indépendance suprême se trouve placée sous l'empire de l'illusion. Cette illusion frappe les êtres dotés d'un pauvre fond de connaissances. Et on voit ainsi le reflet miroitant du soleil, de la lune, du feu et de l'électricité éblouir les prétendus savants, médecins, empiristes et autres, lesquels vont jusqu'à nier l'existence du Seigneur suprême tout en avançant leurs nombreuses théories et spéculations sur la création, le maintien et l'anéantissement de la manifestation matérielle. Le médecin peut bien nier l'existence de l'âme dans le corps, de l'être, distinct, mais il reste incapable de ramener un cadavre à la vie, bien que tous les mécanismes du corps continuent d'exister après la mort. Les psychologues, eux, font des études poussées sur la physiologie du cerveau, comme si c'était l'agencement du tissu cérébral qui permettait à la pensée de s'exprimer. Mais il reste incapable de faire réapparaître l'activité mentale chez un cadavre. Ainsi, les savants étudient-ils la manifestation cosmique ou la constitution du corps sans y voir aucun lien avec le Seigneur suprême. Mais il ne s'agit là que de diverses formes de gymnastique intellectuelle qui finalement ne correspondent qu'à une illusion pure et simple. Tout ce progrès de la science et des connaissances dans le contexte actuel de cette civilisation matérialiste n'est rien d'autre qu'un effet de l'énergie illusoire qui manifeste son influence en voilant la réalité. L'énergie illusoire exerce donc son influence de deux façons, soit par l'effet de projection, soit par l'effet de voile. Par l'effet de projection, elle plonge les êtres vivants dans les ténèbres de l'ignorance. Et par l'effet de voile, elle couvre la vision des hommes au maigre savoir quant à l'existence de la personne suprême. Celle-là même qui éclaira Brahma, le plus grand d'entre tous les êtres distincts. Ce verset ne soutient nullement le fait que Brahma soit identique au Seigneur suprême, et cette assertion absurde venant d'individus de moins d'intelligence correspond à une autre manifestation de l'énergie illusoire du Seigneur. Krishna affirme, dans la Bhagavad Gita 16.18.20, que les êtres démoniaques qui refusent d'admettre son existence s'enfonce toujours plus dans les ténèbres de l'ignorance et transmigre ainsi, vie après vie, sans la moindre connaissance de Dieu, la personne suprême. L'être saint d'esprit, toutefois, se voit éclairé grâce à la succession disciplique issue de Brahmaji, lequel fut personnellement instruit par le Seigneur et par celle d'Arjuna, qui lui aussi fut personnellement instruit par le Seigneur dans la Bhagavad Gita. Ainsi, acquiesce-t-il à cette assertion du Seigneur?
Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, le verset qui a été lu au début, le deuxième chant, neuvième chapitre, verset 34. Ça, c'est un verset, c'est le Seigneur Krishna qui dit ça au Seigneur Brahma. Et une fois que le Seigneur Brahma a réalisé la vérité absolue, Krishna lui parle, et c'est ce qu'il dit ici, que s'il y a quelque chose qui semble avoir une valeur, si ce n'a aucun lien avec lui, cela n'a rien de réel. Il ne s'agit que de mon énergie illusoire, un reflet dans l'obscurité. Alors ici, Prabhupada, dans la teneur et portée, Prabhupada fait comment on peut dire, le procès des médecins ou des scientifiques qui ont une certaine vision de qu'est-ce qui se passe, mais parce que ils ne voient pas le lien avec le Seigneur suprême. Ça vaut pas grand-chose, leur connaissance. Alors évidemment, quelqu'un peut dire, ben oui, mais où est-ce qu'on serait si on n'avait pas les médecins pour nous soigner? C'est un bon argument. Mais toujours est-il que dans le fond, il manque cette vision spirituelle, à savoir c'est quoi l'âme spirituelle, c'est quoi ça, qu'est-ce que l'âme? L'âme est une partie, une parcelle de Krishna. Elle est une en qualité avec Krishna, mais pas en quantité. Elle n'a pas la même puissance que Krishna. Et cette âme-là peut tomber sous l'influence de l'énergie matérielle ou être réfugiée sous l'influence de l'énergie spirituelle de Krishna. C'est le choix qu'elle a. Elle a le choix de servir Krishna ou de ne pas servir Krishna comme tel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors ici, Prabhupada qui écrit dans la teneur et portée, d'où vient la lumière? C'est quoi la réponse? D'où vient la lumière?
Le Brahma Jyoti.
C'est ça. Et le Brahma Jyoti est?
C'est Krishna.
C'est
C'est
l'éclat du corps
l'éclat.
de Krishna, la brillance du corps de Krishna. Alors c'est inconcevable avec nos sens matériels de trouver ça par nous autres-mêmes que toute forme de lumière, ça vient du Brahma Jyoti. Alors, si Krishna ne faisait pas que ça arrive, qu'il y ait cette lumière, mettons la lumière du soleil, dans l'univers, comment est-ce que serait notre vie? En d'autres mots, s'il n'y avait pas de lumière dans l'univers, ça serait comment?
Ben, ce serait l'enfer. Enfin, il n'y aurait même pas de vie, en fait, parce que c'est la lumière qui donne la vie aussi.
Ouais. Ça serait terrible.
Ce serait pire que tout ce qu'on peut imaginer comme infernal, quoi.
Ouais. Alors, Krishna a mis un soleil, une lune. Comme c'est dit dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que grâce à la lune, les légumes deviennent délicieux. Ça favorise le suc des légumes. Grâce à la lune, comment cela se passe? Comment ça arrive? On peut pas le savoir. Mais c'est ce que Prabhupada explique dans la Bhagavad Gita, une teneur importée
Et ça,
dessus.
le jour où moi j'ai lu ça, sans te couper, quoi, bouger, ça m'a rappelé mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui nous ont toujours dit ça, en fait. De toujours travailler avec la lune. La lune, c'est très important pour tout ce qu'on plante. Ça va être meilleur, ça va pousser plus beau, plus gros. Et c'est quelque chose, je sais pas d'où ça vient, en fait, dans les anciens, les ancêtres. Ils ont toujours travaillé avec la lune. Et le jour où j'ai lu ça dans la Bhagavad Gita pour la première fois, j'ai dit, waouh! En fait, c'est l'origine.
Ouais, c'est d'origine. Ça vient de la Bhagavad Gita. Krishna qui explique dans la Bhagavad Gita.
Mais c'est des pratiques que les humains, même sans être des connaisseurs, ont toujours. À un moment, il y a eu. C'est peut-être parti dans une dérive, mais l'effet de la lune sur tout ce que les humains plantent, s'est avéré.
Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On va continuer.
Okay.
OK. Alors, est-ce que tu veux que j'en lise un bout ou tu veux continuer à lire, Virginie?
Moi, ça me dérange pas, mais si tu veux, on peut partager. C'est toi qui vois. C'est comme tu veux. Si moi, ça me dérange pas. Si tu veux, je continue.
OK, continue, s'il vous plaît.
Alors, lettre au Saint-Esprit.
Ouais.
Par Jonas, qui lui aussi fut personnellement resté par le Seigneur. Donc, Aham Sarvasya Prabhavo Matha Sarvam Parvatate Iti Madhva Bhajante Mam Buddha Bhava Samam Vita Bhagavad Gita 10.8. Le Seigneur est la source originelle de toute émanation. Et tout ce qui est créé, maintenu et anéanti n'existe que par son énergie. Celui qui connaît cette vérité, l'homme sensé, est véritablement un sage érudit. Engagé dans le service d'amour absolu offert au Seigneur, il s'élèvera jusqu'au stade de la pure dévotion. Bien que l'énergie du Seigneur offre des reflets illusoires variés à la vision des êtres dotés d'un savoir déficient, l'être réfléchi, lui, réalise que par le jeu de ces différentes énergies, le Seigneur peut agir même s'il se trouve très loin, au-delà de notre vision, comme le feu peut répandre à distance chaleur et lumière. Dans l'Ayurveda, le traité de médecine des sages d'autrefois, la suprématie du Seigneur se trouve irréfutablement confirmée en ces termes. Jagadyoner Anichitchasya Sid Anandaika Rupina Pumshosti Prakitir Nitya Pratichat Yena Yeva Vashvata Asetanapi Chaitanya Yogena Param Atmana Akarot Vishvam Akilam Anityam Nat C'est la personne suprême qui engendre cette manifestation cosmique. Lui dont l'énergie, la nature matérielle, agit en tant que Prakriti. Éblouissante comme un reflet aveuglant. Sous l'influence illusoire de cette Prakriti, même la matière inerte s'anime au contact de l'énergie vivante du Seigneur. L'existence matérielle sera-t-elle une représentation théâtrale, pardon, et les ignorants pourront ainsi jouer le rôle d'un savant ou d'un médecin sur la scène de la Prakriti. Quand l'être sensé saura reconnaître en cette dernière l'énergie illusoire du Seigneur. Suite à une telle conclusion, que confirme d'ailleurs la Bhagavad Gita, il apparaît clairement que les êtres vivants constituent eux aussi une manifestation de l'énergie supérieure du Seigneur. Para-prakriti. Tout comme le monde matériel s'identifie à une manifestation de son énergie inférieure, apara-prakriti. Toutefois, cette énergie supérieure ne saurait être identique au Seigneur, bien qu'il n'existe qu'une bien subtile différence entre l'énergie et le possesseur de l'énergie, ou par exemple entre le feu et la chaleur. Le feu est chaleur, mais la chaleur n'est pas le feu. Il s'agit là d'une vérité toute simple, mais qui n'est pas comprise de l'homme au savoir déficient, qui affirme que chaleur et feu sont identiques. Selon notre verset, l'énergie du feu, la chaleur, est assimilée à un reflet et non au feu en lui-même. Par suite, l'énergie vivante représentée par les êtres distincts s'identifie également à ce reflet du Seigneur et jamais au Seigneur lui-même. L'existence de l'être distinct se trouve donc sous la dépendance du Seigneur suprême, lumière originelle dont il constitue le reflet. On peut comparer l'énergie matérielle aux ténèbres, ce qu'elle est en vérité, et les activités des êtres distincts dans les ténèbres au reflet de la lumière originelle. Il nous faut saisir la nature du Seigneur à travers notre verset. Nul ne peut remédier aux ténèbres de l'ignorance par le seul reflet de la lumière. Et pareillement, nul ne peut échapper à l'existence matérielle par la seule lumière que reflète un homme en ce monde. Cette lumière, il faut la recevoir de la lumière originelle elle-même, un reflet de soleil dans l'obscurité reste impuissant à dissiper les ténèbres. Mais ceux-ci disparaîtront complètement devant le soleil lui-même. Dans l'obscurité, l'homme ne peut distinguer les objets qui l'entourent. Ainsi craindra-t-il serpents, scorpions et autres chimères qu'il s'inventera lui-même. Mais qu'on fasse de la lumière et il pourra alors voir les choses telles qu'elles sont et oubliera toute crainte. Aussi doit-on prendre refuge en la lumière du Seigneur, telle que nous l'offre la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, et non d'individus pareils à des reflets qui n'ont aucun lien avec le Seigneur. Nul ne peut recevoir, nul ne doit recevoir l'enseignement de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam des lèvres de quelqu'un qui ne croit pas en l'existence du Seigneur. Un tel individu est condamné d'avance et le moindre contact avec sa personne mène à un funeste destin. Selon le Padma Purana, la manifestation matérielle compte d'innombrables univers qui sont tous plongés dans les ténèbres. Depuis les Brahmas, il existe autant de Brahmas que d'univers, jusqu'aux minuscules fourmis, tous les êtres naissent dans les ténèbres. Et pour qu'ils puissent voir le Seigneur directement, il leur faut recevoir de lui la lumière véritable. Tout comme on peut voir le soleil que grâce à la lumière,
On ne peut voir.
on ne peut voir, voilà, tout comme on ne peut voir le soleil que grâce à la lumière qui en émane directement. La nuit, aucune lumière conçue par l'homme, aussi puissante soit-elle, ne nous permettra de voir le soleil. C'est de lui-même qu'apparaît l'astre du jour. Ainsi, la lumière manifestée par la miséricorde sans cause du Seigneur permet-elle de réaliser l'action de ses propres énergies. Les impersonnalistes avancent que nul ne peut voir Dieu, et certes l'homme ne saurait y parvenir par la spéculation. Mais celui qui reçoit la lumière de Dieu, celui-là peut le voir. Ce verset fait précisément mention de cette lumière en utilisant le terme vidyat, qui est une instruction du Seigneur destinée à Brahma. Cette instruction directe est une manifestation de son énergie interne. C'est précisément cette même énergie qui donne de voir le Seigneur en personne. Comme Brahma, tous ceux à qui le Seigneur accorde la grâce de voir cette énergie interne, toute de miséricorde, peuvent réaliser Dieu, la personne suprême, sans la moindre spéculation intellectuelle.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Alors, parce que c'était dense, ça. Le... En fait, il faut recevoir vraiment, j'ai vu qu'il était dit, enfin, j'ai du mal à comprendre que des gens qui ne croient pas en Dieu puissent parler de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam, en fait.
Oui, pour les autres, leur point de vue, c'est intellectuel seulement.
Voilà, d'accord. Donc, c'est vraiment à titre philosophique, c'est juste,
Ça
disons.
vaut pas grand-chose. Alors, comme Prabhupada l'explique, c'est quoi le problème? C'est qu'ils ne croient pas en Krishna. Ils ne croient pas en l'existence de Krishna. C'est comme essayer d'expliquer la conscience de Krishna à certaines personnes. Et puis, ces personnes-là, en partant, pour eux autres, ah, lui, c'est Krishna. En parlant du dévot qui parle, là. Ah, lui, c'est un Krishna. Moi, je suis d'autres choses. Alors, quand il dit ou il pense, moi, je suis d'autres choses, ça sous-entend que moi, j'ai pas de rapport, j'ai pas de relation avec ce Krishna-là. Alors, c'est comme parfois les, donc, quand on était en France, on était arrêté par la police. Et alors pour eux autres, ah, c'est les Krishna. Ils n'ont pas de conscience de Krishna. Alors pour eux autres, ils voient les dévots d'une certaine façon. Comme en France, la loi à Paris, en tout cas, c'est que aucun attroupement n'est toléré. Parce que attroupement, selon le concept français, c'est constitué d'un groupe de 5 personnes. Alors, aussitôt qu'il y a cinq personnes qui sont ensemble, égale attroupement. Et attroupement, pour la police, ça veut dire, on peut dire, une manifestation, une émeute potentielle. Alors, les polices, des fois, vont intervenir puis vont dire, dispersez-vous, dispersez-vous, circulez. Ils vont dire ça. Puis si ça continue, ben là, ils appellent le panier à salade et puis bonsoir la visite.
Ah oui, là,
oui,
on voit bien que tu es pas... Non, non, mais moi, je valide. Tout ce que tu dis là, je signe, je valide. On voit bien que tu es passé par là.
Oui, parce qu'en France, on chantait sur boulevard Saint-Michel et des fois, on était une dizaine, une quinzaine de dévots. Les polices n'aimaient pas ça. Alors, pour eux autres, dans leur tête, ah, ça, c'est attroupement. Alors, ils ne voient pas les dévots. Mais quand même, les dévots étant ce qu'ils sont, à force de persister, de chanter pareil, alors, ils nous arrêtent là. Une journée, le lendemain est encore là. On va chanter quand même. Ils vont nous arrêter. Et puis, alors, à un moment donné, on en avait vraiment ras-le-bol de se faire arrêter comme ça par la police parce qu'on perd notre temps. Ils nous font perdre notre temps, là. Alors, on s'est dit, si la police arrive, on se passait toujours le mot avant d'aller chanter, à savoir, si la police arrive, là, tous les dévots partent en courant dans toutes les directions. Elles peuvent pas attraper tout le groupe. Et là, on se passait le bon, on se disait, OK, on se rejoint à telle station de métro. Et en général, c'était station de métro Opéra, à Paris. Et puis là, on recommençait. Et à Paris, c'est tellement, le système de métro est tellement bien, que c'est pas vraiment difficile, disons, d'entrer dans le métro, c'est facile, là. Il y en a un peu pas mal partout, surtout à boulevard Saint-Michel, il y en a, là. Alors, tu rentres là-dedans, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu changes de ligne, bonsoir, et puis tu te ramasses à l'autre station, puis tu continues à chanter, c'est tout. Et à chaque fois, c'était comme ça. Alors, aussitôt qu'on voyait le panier à salade arriver, bang, on s'en allait dans tout. Il attrapait peut-être deux dévots sur une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Puis les autres, on allait chanter ailleurs. Puis ça, souvent, c'est arrivé comme ça. Et puis à un moment donné, à force de faire ça, les polices se sont dit, on va laisser faire. Ils nous laissaient tranquilles, ils nous laissaient chanter. Et puis, on a gagné notre point. On n'est pas là pour créer une émeute. On est là pour chanter les noms de Dieu, les noms de Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? OK. Alors, cette teneur reportée-là est vraiment... disons, lourde. Alors, on l'écoute et puis on n'a pas tellement de choses à dire parce que c'est tellement... Il y a pas de place pour la spéculation. Alors, c'est intéressant la dernière phrase de la teneur portée ici. Alors, Prabhupada qui écrit, « Comme Brahma, tous ceux à qui le Seigneur accorde la grâce de voir cette énergie interne, toutes de miséricorde peuvent réaliser Dieu, la personne suprême, sans la moindre spéculation intellectuelle. » Et c'est ce qui est arrivé au Seigneur Brahma. Le Seigneur Brahma a fait des austérités pendant 1000 années célestes. Et au bout, Krishna était content et Krishna s'est révélé. Alors, si Krishna se révèle, comme on dit ici, là, c'est par son énergie interne que le dévot peut voir Krishna, personne à personne. Et puis là, ben, il n'y a pas de place pour la spéculation intellectuelle. Alors, comme Prabhupada donne un exemple, Les gens ont une certaine conception de Dieu. Et parfois, ils vont imaginer que Dieu est, comme ils peuvent penser, Dieu est la personne la plus vieille qui puisse exister, le plus ancien. Alors, ils vont imaginer Dieu avec un vieil homme avec une grande barbe. C'est leur concept. Mais, d'après la Brahma Samhita, Krishna est toujours jeune. Il ne vieillit jamais. Et comme Prabhupada dit, Krishna a sa forme, c'est celle d'un jeune homme entre 16 et 25 ans. Ça, c'est Krishna. Alors, comment ne pas être attiré par la forme personnelle de Krishna? Alors, Krishna n'est pas un vieillard. Et qui est-ce qui vieillit? C'est ceux qui sont des âmes conditionnées. Et même à ça, c'est le corps qui vieillit, ce n'est pas l'âme à l'intérieur du corps. Ça aussi, c'est dans les enseignements de Krishna de la Bhagavad Gita. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors, on va continuer. 4.2, s'il vous plaît.
4.2. La technique de yoga qui vise à nier toute pensée matérielle ne s'avère ici d'aucune aide. Le vide créé dans le mental ne peut être qu'artificiel et ne tardera pas à se combler. Srila Prabhupada donne l'exemple d'un verre. Lorsqu'on devient pleinement conscient de Krishna, on oublie automatiquement ses absurdités. Je vous ai déjà donné l'exemple à plusieurs reprises. Vous avez un verre. Si vous le remplissez de lait, il n'y a aucune possibilité qu'il soit rempli d'encre. Mais tant qu'il est rempli d'encre, il n'est pas possible de le remplir de lait. La conscience de Krishna est donc du lait et la conscience matérielle de l'encre. Le verre est fait pour être rempli avec quelque chose. Il ne peut rester vide indéfiniment. Il est fait pour servir à quelque chose. Pareillement, en ce qui concerne le mental, il n'y a que deux alternatives. Être rempli de la conscience de Krishna ou de toutes sortes de choses qui n'ont pas de rapport avec la conscience de Krishna. Ce remplissage, à la lumière de ce que nous venons de lire, dépend de quelle énergie un individu prend refuge. En d'autres mots, dans quelle énergie est-il absorbé? C'est soit dans l'énergie spirituelle du Seigneur à le servir en toute conscience du choix déterminé qu'il a fait, soit dans l'énergie matérielle sous l'effet de la puissance d'oubli de cette même énergie, laquelle se divise en deux fonctions. Srila Prabhupada explique dans une classe sur le Srimad Bhagavatam le 18 août 1972 à Los Angeles. Ce qu'on appelle Maya, Prakshepatmika Sakti, la couverture, Avaranantmika Shakti, Prakshepatmika Shakti, il existe deux types d'énergie matérielle, Maya. L'une est Avaranantmi, l'ignorance. On vit une vie très condamnée tout en pensant « je suis très heureux » ou « tout va bien ». Si l'âme conditionnée tombe sous l'influence de l'énergie matérielle, il n'y a plus de fin à ses souffrances. Pas avant bien, bien longtemps, le jour où elle aura un changement de cœur à l'égard du Seigneur suprême. L'être infiniment cher à tous les êtres, de par leur relation éternelle avec lui. En fait, comment peut-on être heureux sans être conscient de la relation qui existe entre tout ce qui existe, mobile et immobile, et le Seigneur suprême? Il faut vraiment être sous l'effet de Mahamaya pour ne même pas se soucier de connaître la réponse, ou dans le cas contraire, même en possession de la réponse, d'un être malgré tout complètement indifférent.
Jai, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
En fait, quand on est dans cet état-là, c'est-à-dire où on voit tout en relation avec Krishna, on atteint une forme de stabilité, de sérénité. Parce qu'en fait, tout s'explique. Je sais pas si
Oui, oui.
C'est plutôt une constatation, en fait. C'est que tant qu'on n'a pas, on n'a pas compris cette relation, qu'on n'a pas vraiment fait corps avec cette vérité, en fait. Que
Ouais,
rien
c'est...
n'est indépendant. Tout est rattaché à Krishna. Donc,
Exactement.
quand on le voit partout, quand on le... automatiquement, on est dans une forme de sérénité, même s'il y a beaucoup de choses pas belles dans ce monde, mais voilà, on sait que c'est pas vrai, en fait. Ce qu'on veut nous faire croire étant la réalité, c'est complètement faux.
Ouais, c'est s'il n'y a pas de relation avec Krishna, il manque le principal. La réalité, c'est Krishna. Et voir tout en relation avec Krishna. Et comme on a lu aujourd'hui, voir quelque chose sans lien avec Krishna, c'est illusoire. Alors, c'est comme dire, je sais pas, un billet de 100 $, si on voit pas que c'est autorisé par le gouvernement, il manque quelque chose, là. À ce moment-là, ça peut être quelqu'un, si vraiment il pousse dans cette idée-là, quelle est la différence entre son billet de 100 $ et du papier ordinaire? C'est pourquoi c'est écrit sur le billet, sur l'argent, que ça peut être utilisé.
Monnaie. C'est une valeur, en fait.
Oui, ça a une valeur d'échange. Alors, parce que c'est autorisé par le gouvernement. Alors, c'est ça. Alors, ici, on parle de l'énergie illusoire qui a deux fonctions. Et ça, c'est intéressant de se rappeler de ces deux fonctions. Alors, une est appelée, et même si c'est un peu compliqué le sanskrit, c'est bon de s'en rappeler. Alors, Prakshepatmika Shakti et Avaranatmika Shakti. Alors, il y en a une qui couvre le savoir ou l'être vivant. L'être vivant ne peut pas se connaître lui-même tel qu'il est en tant qu'âme spirituelle grâce dû à l'influence de cette énergie-là. Et Avaranatmika Shakti, qui est une puissance de projection. Alors, c'est quoi la puissance de projection? C'est Prabhupada explique ça ailleurs, dans une teneur portée. C'est que l'énergie matérielle va projeter l'âme conditionnée dans un autre corps. Lequel corps va être selon ses actions accomplies pendant sa vie. Et c'est ce qui amène le concept de la transmigration de
Ok,
l'âme. Et
d'accord, c'est ça.
c'est l'énergie matérielle qui projette. C'est-à-dire que on peut être ici et maintenant, comme on dit, mais 5 minutes plus tard, on est dans un décor complètement différent. Alors, comme par exemple des personnes qui se font assassiner, ben ils sont là 1 minute, et l'autre minute d'après, ils sont sortis de leur corps. Ils sont amenés, on ne sait où. Et on ne sait où, c'est une façon de parler, là. Du point de vue des vivants, on ne sait où. Et par contre, si on se fie aux Écritures comme le Srimad Bhagavatam, quand un homme meurt, il est amené chez Yamaraj pour être jugé et ce sera, comment on peut dire, son prochain corps va être décidé. Et en fait, c'est expliqué aussi que tant que c'est pas déjà décidé d'avance quel sera le prochain corps, la personne ne va pas quitter le corps. Alors, la comparaison est faite comme une chenille qui se déplace. Alors, quand elle met la moitié de son corps sur quelque chose de ferme, puis ensuite elle ramène l'autre moitié. Alors, de la même façon, quitter un corps, mais c'est déjà décidé. Ah, comme Prabhupada donne l'exemple aussi, c'est comme marcher. On place un pied en avant, une fois que le pied est bien déposé, on ramène l'autre pied et ainsi de suite, on va marcher. Alors, la transmigration de l'âme, c'est subtil, mais ça existe. Il y a des questions, des commentaires.
Mais je croyais qu'on avait un temps défini, en fait.
Un quoi?
Un temps défini, c'est-à-dire qu'on avait une période comme qui est déjà plus ou moins programmée, non, de vie dans ce
Oui, on a une
corps-là.
destinée, oui,
Voilà.
ça c'est déjà déterminé d'avance, ça aussi.
Voilà. Mais comme tu disais que tant que le moment de notre départ de ce corps-là n'est pas déterminé, on n'est pas encore vers. J'ai pas bien compris en fait. On n'est pas vers la prochaine destination.
Oui, c'est ça. Il y a des autres, comme Prabhupada explique. Par exemple, si on voulait, par exemple, tel ou tel type de vie dans la prochaine vie, on ne peut pas, disons, s'attendre à ce que ça va être ce type de vie-là qu'on veut, qui va nous être accordé. Parce que c'est des autorités supérieures qui décident. Alors, c'est ça qui est on peut dire, j'ai le mot en anglais, là, mais very picky, que c'est très, pointilleux. La transmigration de l'âme. Il y a une part qui dépend de nous parce que c'est, quelle sera notre dernière pensée au moment de quitter le corps?
C'est ça.
Et là, comme on lit aujourd'hui, on a le choix. On peut s'absorber dans l'énergie spirituelle ou dans l'énergie matérielle, un ou l'autre. Alors, comment est-ce qu'on s'absorbe dans la vie spirituelle? Comment ça marche?
Comment on s'absorbe? Ben, déjà, ça demande de prendre la tâche d'un maître spirituel et de vivre selon certains principes et d'avoir une vie tournée vers Krishna, au
Oui.
service, de développer en fait notre attachement à Krishna.
Oui. Mais tout cela, ça dépend d'une activité. Parce qu'on peut, la conscience de Krishna, c'est pas quelque chose juste intellectuel. Comme par exemple, si on se dit, ah, je lis les livres. Je comprends la philosophie. Il y a plus que ça. Et le plus qui fait que ça va fonctionner, c'est le chant des saints noms.
Que vous allez bien chanter les saints noms.
Parce que le chant des saints noms, c'est une prière et on demande à Krishna continuellement, tout le long qu'on chante, on demande à Krishna de nous engager dans son service. C'est ça le chant du Maha Mantra. Alors, on veut être engagé à son service et en même temps, ça veut dire, s'il vous plaît, protégez-nous de l'influence de l'énergie matérielle. Alors, faut que ça c'est un chant qui veut dire ça. On demande à Krishna et on demande à son énergie interne, Hare Hare, de nous engager au service de Krishna. Alors, comme on a expliqué aujourd'hui, il y a deux énergies, une énergie spirituelle et une énergie matérielle. Alors, le dévot doit être conscient de ces deux énergies tout le temps Et pour se tenir sous l'influence de l'énergie spirituelle, il doit chanter continuellement le Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est la vie. C'est la vie d'un dévot, ça. C'est chanter Hare Krishna, peu importe qu'est-ce qui arrive. Alors, quand est-ce que le dévot chante? Ben, Krishna lui donne l'intelligence pour trouver le temps et la façon de chanter, peu importe qu'est-ce qui arrive dans sa vie de tous les jours. Le dévot doit chanter. Il y a des questions, des commentaires? Alors, là, on va terminer ça. Le 4.3, il n'y en a pas beaucoup.
Ah ben oui, c'est vrai. Après, c'est, on passe sur notre 4.3. Cependant, si l'on absorbe toujours ses pensées en Krishna, méditant sur le moyen de mieux le servir, tout naturellement, le mental sera maîtrisé. Il y a toujours moyen de mieux servir Krishna. Il y a 9 méthodes du service de dévotion, ce qui est assez pour nous tenir occupés 24 heures par jour. Krishna est infini et son service l'est tout autant. Le monde spirituel n'est que cela, œuvrer pour plaire à Krishna. On ne peut se lasser de le servir car c'est notre position constitutive qui le veut ainsi. La beauté de la chose est que Krishna réciproque non seulement dans le cœur du dévot, mais en personne aussi. Les divertissements de Krishna sur terre étaient des répliques de ses divertissements dans le monde spirituel. Le bonheur, c'est vraiment d'être avec Krishna plutôt que dans les ténèbres de l'oubli. Hare Krishna.
Bye. Il y a des questions, des commentaires.
Ben, ça résume tout, en fait.
Oui, ça résume tout.
Tout ce qu'on a échangé là, c'est une belle conclusion.
Ouais.
Dire que, ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai bonheur, hein, sinon c'est vraiment, puis quand on a un peu l'expérience de la vie aussi, on s'en rend compte, hein, pas même par rapport à des personnes qu'on connaît ou de nos familles et tout. On le voit, les gens, tout le monde court après des choses, mais c'est qu'illusoire et en fait, c'est triste des fois même de pas pouvoir, aller leur dire, mais attention, c'est pas là le chemin.
Ouais, ça c'est, on peut pas faire grand chose de les
Non,
gens.
des fois c'est frustrant hein, parce que ça permettrait de les gens se sentiraient beaucoup mieux. Le monde
Ouais.
irait mieux aussi.
Ouais. Effectivement.
Mais petit à petit, on
Ouais.
arrive.
Alors, un dévot justement qui veut penser à Krishna, à quoi doit-il penser?
Un dévot qui pense.
Mettons, comme dévot, on se dit, ah, il faut que je pense à Krishna, il faut que je pense à Krishna. Mais où est-ce que tu vas fixer ton mental pour penser à Krishna?
En fait, c'est plutôt se dire qu'on agit pour Krishna, on de le mettre toujours en relation avec de l'oppo. Enfin, moi, de le faire toujours être présent dans notre vie, en fait.
Oui, mais présent sous quelle forme? On va en nommer, là. Un, le saint nom.
Voilà le saint nom.
Nom différent de Krishna. Des Murtis.
Oui, ah voilà, ok.
Et ensuite?
Ben les livres.
Oui, et dans les livres, il y a?
L'enseignement du mode spirituel.
Oui, ça c'est une chose. Mais si on veut vraiment penser à Krishna, il faut s'absorber dans les divertissements de Krishna.
Oui.
Alors, comme c'est dit ici,
Oui.
les
Oui, parce que.
divertissements de Krishna sur Terre étaient des répliques de ses divertissements dans le monde spirituel. Le bonheur, c'est vraiment d'être avec Krishna en toute conscience plutôt que dans les ténèbres de l'oubli. Hare Krishna. Alors, Si on dit, je veux penser à Krishna, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un embarque dans les divertissements de Krishna. C'est pas juste la philosophie, là. Krishna est une personne. Il a ses compagnons, il a ses compagnes, il a ses serviteurs. Et ses serviteurs et servantes ont un lien direct avec lui. Nous, on n'est pas à ce stade-là. Nous, on est des dévots néophytes. Alors, on doit, à un moment donné, ça va être expliqué, là, dans le Upadeshamrita, plus loin, dans d'autres chapitres, qu'à un moment donné, il faut prendre refuge. C'est Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati qui explique ça. Prendre refuge d'un compagnon de Krishna et apprendre de lui comment servir Krishna. Alors, c'est pourquoi, dans les tout premiers livres de Śrīla Prabhupāda, qu'est-ce qu'on trouvait? Pratiquement parlant, le premier, à part le Śrīmad Bhāgavatam, qu'est-ce qui est venu? Antimatière éternité, qui s'appelait Easy Journey to Other Planets, originalement. Ensuite, il y a eu les enseignements du Seigneur Chaitanya, mais dans les premiers livres de Prabhupada, le livre de Krishna, qui était en anglais. Alors, comme Prabhupada dit, quelqu'un va voir la page couverture du livre de Krishna. Il va se demander, mais qui est ce garçon et cette fille qui sont sur la page couverture, sur la couverture, c'est ça, du livre? Ah, c'est Radha et Krishna. Alors, automatiquement, ça, disons,
Ça intéresse, ça attise l'intellect, en
oui,
fait. Ça...
ça inaugure la relation est personnelle avec Dieu. Le livre de Krishna, par exemple, là, c'est pas la Bible. La Bible te parle de Dieu, du Dieu tout-puissant, mais tu sais jamais qu'est-ce qu'il a l'air. C'est pas décrit sa forme. Mais dans le Srimad Bhagavatam, dixième chant en particulier, ça ne parle que de la forme personnelle de Dieu. Et dans le Srimad Bhagavatam, il y a tous les détails. Comme là, par exemple, on parle ce qu'on a lu aujourd'hui, le verset cité, deuxième chant, neuvième chapitre, verset 34. Le neuvième chapitre du deuxième chant, ça décrit justement le monde spirituel. Ce que Brahma a réalisé, ce qui lui a été révélé par Krishna. Alors, ça, c'est des détails qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est la grâce de Krishna que on a la chance de pouvoir avoir accès et écouter ces descriptions-là. Et alors, quand on parle justement de se vouloir conscient de Krishna, ben il faut arriver à tout ce que Krishna représente, son nom, sa forme, ses qualités, ses divertissements, ses compagnons, ses compagnes, ses demeures, l'endroit où Krishna est venu sur terre, Vrindavan. Et c'est ça, Krishna. Alors, par la grâce de Krishna, toute cette connaissance nous est donnée. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est s'absorber et puis profiter du plaisir spirituel que cette connaissance apporte. Et cette connaissance spirituelle est tellement puissante. Un, elle nous comble, et de deux, en même temps, elle nous fait nous détacher de l'influence de l'énergie matérielle. Et ça, c'est un cadeau. Parce qu'après, une fois qu'on a goûté à Krishna, il n'y a pas vraiment quelque chose de matériel qui peut être attirant pour nous. C'est Krishna, finalement, qu'on recherche.
Ouais.
Voilà. Question, commentaire? OK, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup.
Merci, Pablo.
Hare Krishna.
Hare
Et
Krishna.
puis, il y a un cours samedi.
C'est ça.
C'est Chopanishad. Voilà. Merci
À
beaucoup.
samedi. Hare
Bonne
Krishna, Haribol.
continuation de semaine.
Oui.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare
Au
Haribol.
revoir, Rose. Hare Krishna.
Haribol, les gens.
Ah, les gens.
Bon, ben voilà. That's it. That's all. Voilà. Merci beaucoup.
Hare
Hare
Krishna,
Krishna.
Prabhu.
Haribol. Jai.
Jai.
Haribol. Jai.